France Culture.
Réplique. Qui sont les nouveaux maîtres du monde et que nous apprennent-ils? Avec Giuliano da Empoli. En 2017, Philippe Roth écrivait « Nous n'avons jamais rien vu qui soit aussi pauvre sur le plan humain que Donald Trump. Ignorant du gouvernement, de l'histoire, de la science, de la philosophie, de l'art. Incapable d'exprimer ou de reconnaître la moindre subtilité, la moindre nuance, dépourvu de la moindre décence et maîtrisant un vocabulaire de 77 mots. » Or, cet homme inculte et brutal, qui qualifiait Kamala Harris, son adversaire démocrate, de tarée, de glandeuse, de véritable pourriture, a été réélu en 2024 président des États-Unis d'Amérique. Et, nous dit Giuliano da Empoli dans son dernier livre « L'heure du prédateur », il a pris la tête d'un cortège bariolé d'autocrates décomplexés, de conquistadors de la tech, de réactionnaires et de complotistes, impatients d'en découdre. Étrange cortège en vérité. Alors, ce que je voudrais demander à Giuliano da Empoli, c'est de nous détailler sa composition et de nous aider à comprendre ce qui le cimente. Giuliano da Empoli.
Écoutez, c'est en effet un cortège assez bizarre qui tient ensemble des personnages qui, a priori, n'auraient pas grand-chose pour s'entendre, parce que entre un réactionnaire du Midwest qui se promène avec des armes où qu'il aille et un seigneur de la tech de Silicon Valley, comme c'est le cas, parce que c'est un cortège international, ou un prince héritier d'Arabie Saoudite, ou un président argentin, a priori, il n'y a pas beaucoup de choses en commun. On va essayer, si vous le voulez bien, après de voir ce qui les tient, mais le premier élément commun, je pense, qu'ils ont tous, au-delà même de leur désaccord, c'est qu'ils pensent que leur moment est venu. Quand on fait une révolution, souvent, les gens qui composent, au fond, la base et même les leaders de cette révolution ne sont pas d'accord entre eux. Mais par contre, ils ont tous envie d'en découdre avec l'ancien ordre. Et ils se disent tous que le moment est finalement arrivé. Et c'est ça, je pense, qui les unit. Et en particulier qui unit ces personnages au fond très archaïques, ces prédateurs qu'on ne comprend pas si on lit les sciences politiques des 20 ou 30 dernières années, mais qu'on comprend très bien si on lit les livres d'histoire, les classiques romains, les Svétones, les Tacites ou ensuite les Machiavel. Et ces personnages de la tech, par contre, qui viennent du futur et qui ont toute une autre idée du développement de l'humanité. Mais les deux ont envie d'en découdre. Les deux ont envie de sortir du cadre de la démocratie libérale. Les deux ont envie d'en découdre avec les vieilles élites, pas que les politiques, mais aussi les journalistes, les médias, le monde de l'université, de la recherche, etc.
Oui, tous ont envie d'en découdre. Et vous dites aussi que la réélection de Trump a été une sorte d'apocalypse au sens littéral du terme, non pas la fin d'un monde, mais la révélation de quelque chose. Révélation de quoi, on pourra s'interroger, mais on a l'impression aussi que cette élection vient en réaction à ce qui apparaît de plus en plus comme l'impuissance des responsables politiques traditionnels. Et notamment autour d'un thème important, ou deux thèmes importants, l'insécurité et l'immigration. Avec l'immigration incontrôlée, l'Occident, et aussi bien sûr dans l'Occident l'Europe, change de visage. Les peuples européens s'inquiètent très majoritairement de ce changement. Or, les politiques, depuis des décennies, l'accompagne, soit par résignation, soit parce qu'ils veulent réparer, au nom de l'égale dignité des personnes, l'injustice fondamentale qui consiste à se séparer et à se préférer. Et donc il y a quelque chose comme une lassitude et une volonté de voir les politiques retrouver leur pouvoir d'action, même si ce pouvoir doit se révéler très brutal. Et d'ailleurs, vous citez par exemple Nayib Bukele, que président du Salvador, que Donald Trump a reçu en grande pompe à la Maison Blanche, et le Salvador, dites-vous, c'était le pays où régnait une criminalité immense, sans aucune comparaison en Amérique latine, et il a décidé de mettre en prison, sans autre forme de procès, tous les tatoués. Parce que effectivement, le tatouage, c'était le signe extérieur de l'appartenance à des gangs. Et alors, les pauvres tatoués qui faisaient ça parce que ils étaient punks ou je sais pas quoi, ils sont retrouvés en prison aussi, dans des conditions vraiment terribles. Mais le résultat, c'est que le Salvador est le pays le plus sûr du monde aujourd'hui, dites-vous. Et donc, il peut dire, voilà, j'ai emprisonné quelques milliers de personnes, mais il y en a quelques millions qui n'ont plus peur grâce à moi. Donc, est-ce que c'est ça l'origine de la fascination que peuvent exercer un certain nombre de ce que vous appelez les prédateurs, Giuliano D'Empoli?
Tout à fait. Les prédateurs pratiquent une forme de miracle politique. Le miracle, en théologie, c'est l'intervention directe de Dieu dans le monde qui contourne les règles de fonctionnement ordinaire du monde pour, sur un cas particulier, produire un résultat particulier. Et le miracle politique, aujourd'hui, c'est, comme vous le dites, dans un contexte dans lequel les opinions publiques, les électorats ont la sensation qu'on ne peut rien faire, qu'en réalité, on élit des personnages les uns les autres de droite ou de gauche, mais ça ne change rien, qu'il y a de toute façon tellement de contraintes, de règles. En Europe, on parle évidemment des contraintes européennes, mais chaque pays, dans chaque contexte, a les siennes. Eh bien, dans un contexte de ce type, le prédateur qui arrive et qui dit « moi, les règles ne m'intéressent pas ». Moi, j'ai besoin de briser les règles, même les lois, parfois, pour me concentrer sur le résultat. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'objet et la préoccupation du peuple. Alors que cette préoccupation, encore une fois, ça dépend des différents contextes, mais ça peut être, en effet, l'immigration, ça peut être l'insécurité, le pouvoir d'achat, ça peut être la criminalité ou autre. Et donc, moi, dit le prédateur, je fais fi de toute règle. De toute façon, les règles, ce sont au fond un grand système d'arnaque aux dépens du peuple, hein, qui a été élaboré par les élites pour faire leurs intérêts. Donc, il faut que je brise ce système-là pour m'attaquer au problème directement. Et quand ça marche, alors ce n'est pas toujours le cas. Je pense que, par exemple, dans le cas de Trump, ça risque de ne pas marcher dès le début. Hein, et donc, ça devient plus problématique. Mais il y a des cas où ça marche. Le cas de Bukele au Salvador, effectivement, c'est quelqu'un qui part du pays le plus violent du monde, statistiquement, hein, le taux d'homicide le plus élevé au monde, et qui le rend le pays le plus sûr des Amériques, encore plus que le Canada, qui a un taux d'homicide très bas. Eh bien, dans ces cas-là, effectivement, ça nous met face à un dilemme. Et ça met, je pense, tous les démocrates, parce que la démocratie est surtout une question de règles, mais face aux vrais défis que ces prédateurs représentent.
Mais pour en revenir à Donald Trump, vous l'avez dit, il n'est pas sûr du tout que ça marche. Alors, d'ailleurs, est-il vraiment un prédateur? Le Monde publiait il y a peu un article de John Bolton, qui a été conseiller à la sécurité nationale des États-Unis entre 2018 et 2019. Il est parti, justement, donc c'était le premier mandat de Donald Trump. Et il dit ceci: Trump ne s'embarrasse pas de philosophie politique, ni même de politique tout court. Son univers mental n'est fait que de transactions conclues l'une après l'autre, sans lien entre elles. Cet état d'esprit est peut-être celui du monde des affaires, ajoute Bolton, des affaires immobilières, pratiquées à Manhattan, mais ce n'est pas ainsi qu'on gouverne les États-Unis. Et il croit pouvoir résumer les relations internationales aux liens personnels. Et il envoie un autre promoteur immobilier, Steve Witkoff, pour négocier avec Poutine. Résultat, le projet d'accord est totalement conforme à la volonté russe. Et il envoie le même Witkoff, qui ne connaît rien à l'Iran, qui ne connaît rien au nucléaire, négocier avec les Mollahs. Et le résultat, c'est un éventuel accord qui ressemblerait à celui de 2015, rompu par le même Donald Trump. Et c'est là d'ailleurs que je voudrais vous interroger, parce que on voit quand même les limites du personnage, et peut-être que tout va bientôt se retourner aussi avec sa politique protectionniste, qui risque d'affaiblir les États-Unis. Et donc, est-ce que ce sera Make America Great Again, ou justement, comme l'écrit Christian Saint-Étienne, Make America Small Again? Mais là, justement, je voudrais vous interroger, parce que vous dites, il n'y a pas de lien entre la puissance intellectuelle et l'intelligence politique. Alors, vous écrivez aussi que, effectivement, là, vous rejoignez Philippe Roth, que Trump ne lit jamais rien, même pas les livres, pas les journaux, pas les notes que lui envoient ses équipes. Ben, oui, mais est-ce que ça n'a pas des répercussions dramatiques sur sa politique? Et est-ce que ça ne risque pas de faire de lui la proie des prédateurs, quand on pense effectivement à Poutine?
Ben, il y a toujours un prédateur plus fort que l'autre, ça c'est la loi de la nature. Mais cela dit, je pense que Trump a un potentiel d'autodestruction qui est bien évidemment considérable. On l'a vu lors de son premier mandat et on est en train, je pense, d'assister à la suite aujourd'hui. C'est un agent totalement chaotique et même par rapport au dessein de certains de ses proches qui ont une idée un peu plus structurée des différents sujets avec un projet, par exemple, même toute la question commerciale et donc des taxes sur les importations et tout ça. Ce n'est pas totalement illogique si c'est développé d'une certaine façon. On peut ne pas partager, mais ça peut avoir une logique. Sauf que lui, il fait son Liberation Day, son jour de ses annonces, de façon tellement chaotique, lui tellement peu préparé, tellement ridicule, qu'en effet, il endommage son propre camp. Mais je pense qu'il faut quand même voir que ce type d'action-là, qui peut paraître assez folle, l'est dans un contexte traditionnel, mais dans un contexte carnavalesque, dans lequel le niveau de défiance par rapport au système politique, dans l'opinion publique, a dépassé un certain seuil, toutes les valeurs se retournent. Donc, la compétence, la structuration, une certaine cohérence, qui sont au fond des atouts traditionnels des leaders politiques, se transforment en un handicap à partir du moment où vous pensez que tout le système est pourri. Alors qu'un agent qui va être purement chaotique, destructeur, très fortement transgressif comme Trump, c'est vrai qu'il ne produit pas de résultats en termes de politique, mais il produit quand même cette libération d'énergie. Et en plus, il est parfaitement en phase avec le fonctionnement des réseaux sociaux et de tout l'écosystème du numérique qui, justement, est construit pour se baser sur des coups d'éclat, pour pousser les contenus les plus extrêmes. Ça n'a pas beaucoup d'importance que vous soyez cohérent sur les réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est qu'à tout moment, vous mobilisiez des énergies très extrêmes. Et ça, Trump le fait instinctivement, peut-être, mais de façon remarquable.
Il le fait de façon remarquable, dites-vous. Mais là, je voudrais vous interroger plus précisément, justement, sur cette absence de relation qu'il y aurait entre la puissance intellectuelle et l'intelligence politique. Parce que j'ai des contre-exemples en tête. Le premier d'entre eux, en France en tout cas, c'est le général de Gaulle. Sa trajectoire, mais aussi ses réflexions. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote, disait-il. Et, autre citation magnifique, la véritable école du commandement, c'est la culture générale. Il y a Richelieu aussi, plus lointainement en France, il y a Disraeli en Angleterre, il y a Clemenceau, il y a Churchill.
Tout à fait.
Et on se dit aujourd'hui que l'hypermodernité produit comme ça des incultes absolus qui règnent sur les réseaux sociaux, mais que c'est un phénomène terrifiant pour la politique elle-même.
Oui, de mon point de vue, il y a deux éléments. Je pense qu'il y a un élément intemporel qui fait et j'insiste sur ce point, que la puissance intellectuelle seule ne fait pas l'intelligence politique. Il y a, vous m'avez fait des exemples où effectivement où les deux coïncident, mais ce sont deux qualités, je ne dis pas séparées, elles sont en relation entre elles, mais ce sont deux qualités différentes qui peuvent aussi vivre séparément, à mon avis. Donc vous pouvez avoir des gens qui ont une considérable puissance intellectuelle et même plus, une connaissance de la politique, d'études extraordinairement raffinées et approfondies, mais vous les mettez dans une arène politique et ils sont très très rapidement battus par quelqu'un qui va être beaucoup plus simple intellectuellement, mais qui va être plus capable de voilà d'être dans le moment et d'avoir une... Donc je crois qu'il y a malgré tout un côté instinctif de la politique qui compte, et les personnages que vous avez cités, ils avaient les deux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça, je pense que c'est un peu une constante. Aujourd'hui, comme vous le dites, je suis parfaitement d'accord, par contre, ça s'aggrave. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans un système, et là, encore une fois, je pense que le basculement de notre sphère publique, d'une sphère au fond de médias traditionnels, d'écriture et tout ça, dans une sphère d'abord audiovisuelle et ensuite aujourd'hui surtout numérique, fait que, en effet, les critères de sélection de la classe politique se modifient et pas en bien.
Mais je pense aussi à un homme qui avait un instinct politique, c'était Richard Nixon. Mais à côté de lui... Il y avait Kissinger. Ouais. Trump, je ne sais pas quel est son instinct, mais à côté de lui, il y a Witkoff. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui fait, entre autres, le charme de L'heure des prédateurs, Giuliano de Empoli, ce sont les récits. C'est un livre plein d'anecdotes très significatives. Alors, je voudrais qu'on s'arrête à quelques-unes de ces anecdotes, et notamment ce que vous racontez d'un dîner à la Fondation Obama, un dîner d'inauguration de cette fondation créée juste après son départ de la Maison-Blanche. C'est tellement ahurissant qu'il faut vraiment qu'on s'y arrête. Alors, que s'est-il passé? Et qu'est-ce que ce dîner nous révèle, Giuliano de Empoli?
Il faut se replacer dans le contexte. Donc, on est à l'automne 2017. Trump est à la Maison-Blanche depuis quelques mois. La situation est, en effet, aux États-Unis, très chaotique. Moi, j'accompagne à cette occasion, à ce dîner d'inauguration, l'ancien Premier ministre italien Matteo Renzi. Nous arrivons d'une Europe qui, elle aussi, est traversée par... Il y a eu le Brexit juste l'an avant. Nous allons bientôt être balayés aux élections par une vague nationale populiste quand même très importante qui se produira quelques mois après en Italie. Donc on est dans une situation un peu de désarroi. Et c'est vrai que, par réflexe peut-être, mais le mouvement, disons, de centre-gauche européen a tendance à se tourner vers les États-Unis à partir au moins de l'âge de Bill Clinton. Donc on va à ce dîner en attendant que Obama, qui ne s'est pas exprimé du tout jusque-là, nous donne quelques pistes de sortie de cette situation. Et donc, on débarque au dîner. Et là, le premier speech est un speech de l'ancien chef de la Maison-Blanche qui nous raconte la valeur essentielle et politique du potager bio de Michel Obama.
Oui, c'est le chef cuisinier.
Le chef cuisinier. Oui, et en effet, on avait été forcé, là, à l'occasion d'une visite précédente à la Maison-Blanche, assez longuement de tourner dans le potager, parce que c'était quelque chose... Tous les visiteurs d'Obama devaient passer par le potager, même à la Maison-Blanche. Et après, il y a un autre discours d'un personnage qui a été le pionnier de la consommation responsable et méditée du chocolat en entreprise et qui nous fait tout un discours sur le fait voilà, qu'il faut méditer en mangeant et tout. Et après, les speeches se terminent et on pense pouvoir commencer la conversation autour de la table, sauf que nous sommes interrompus après quelques minutes parce qu'il y a une jeune personne qui nous dit que non, qu'il va falloir que ce soit une conversation réglée et modérée, et au cours de laquelle il va falloir répondre à quelques questions, d'où vient mon nom, et qui sont les miens, et
qui aimerais-je être,
questions importantes. Et cette personne commence à nous raconter son histoire avec beaucoup de brio, et d'où il ressort donc que c'est une personne transgenre, de race mixte, adoptée par une famille de Chicago. Et moi, je me dis, en l'écoutant, en effet, que ça va être très difficile de faire mieux, parce que c'est une histoire quand même assez remarquable. Bon, tant bien que mal, nous poursuivons cette discussion et nous avons avec nous le seul vrai représentant du peuple à ce dîner, c'est l'agent de sécurité de Renzi qui nous a accompagnés. Et lui aussi, il est impliqué dans la discussion et au moment où on lui demande qui voudrait-il être, il a la naïveté de dire moi-même. Et là, tout le monde lui tombe dessus, et en particulier le modérateur, de façon très, très violente, parce que, en le taxant d'égocentrisme. Et après, il y a eu tout le séminaire de la Fondation Obama, et c'était beaucoup, et c'était que des arguments de ce type, disons, qui étaient développés, qui étaient d'ailleurs en eux-mêmes tout à fait respectables, mais ne nous offraient véritablement aucune piste pour combattre la déferlante trumpiste et nationale populiste de l'époque, même plutôt le contraire. Je pense que cet agent de sécurité, malheureusement, bon, il était italien, mais s'il avait été américain, il serait ressorti trumpiste de l'inauguration de la Fondation Obama.
Oui, c'est ça. Et vous rappelez que dans la campagne pour les primaires démocrates de 2020, Kamala Harris avait envisagé l'abolition de la police des frontières, tout en prenant un financement public pour le changement de sexe des détenus et des immigrés illégaux. Et vous dites aussi qu'en 2024, une des publicités les plus percutantes de Trump face à Kamala Harris, donc il n'y avait pas que les injures, était celle-ci. Harris est pour Yale, Trump est pour vous. Et en effet, donc le wokisme est du pain béni, dites-vous aujourd'hui, pour... C'est populiste.
Oui, et c'est du pain béni en réalité
pour
toute la machine et l'écosystème de la tech. Parce que si vous avez un système qui, au fond, n'est qu'une gigantesque machine publicitaire pour les contenus les plus extrêmes, qui va surtout fonctionner sur ce principe-là. Je raconte aussi dans mon livre l'histoire d'Alexander Nix, qui était le patron de Cambridge Analytica, et donc une société de com et de propagande politique sur Internet, qui, quand il recevait ses clients, disait « Si vous allez voir une autre boîte de publicité ou de com traditionnelle, vous voulez vendre du coca dans un cinéma, ils vont vous dire « Faites des publicités, recrutez des stars, dépenser de l'argent ici et là. » Moi, si vous voulez vendre du coca dans un cinéma, je vous dis, la chose à faire, c'est élever la température. Comme ça, dans la salle elle-même, comme ça, les gens auront soif et ils auront envie de boire du coca. Et la machine de la tech, ça fonctionne comme ça, l'écosystème du numérique. On élève la température à tous les niveaux pour que les gens soient de plus en plus excités et addicts à la machine elle-même. Et les contenus woke les plus extrêmes, disons, sont du pain béni pour ça, comme le sont les provocations ou les flirts ou les gestes néo-nazis ou d'inspiration nazie de certains suiveurs de Trump
ou de Steve Bannon
ou d'autres. Tout ça, au fond, n'est qu'une spirale qui s'auto-alimente.
Donc c'est pour ça que vous parlez d'une convergence structurelle entre les seigneurs de la tech ou les conquistadors de la tech, selon vos expressions, et les prédateurs.
Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est un peu peut-être le fil rouge de mon livre, c'est arrivé il y a 30 ans de ces gentils jeunes hommes, surtout des hommes en sweat à capuche qui débarquent sur la scène publique, qui ont des startups d'Internet, qui ont l'air plutôt gentils, progressistes, bien intentionnés, et on se dit que c'est du business, de l'innovation, ils vont en faire. Sauf que vu que, peut-être distraits par autre chose, les politiques choisissent de ne pas s'en occuper, ou ils n'ont pas bien compris comment s'en occuper, la puissance de ces personnages a continué à monter. Je raconte dans le livre aussi l'épisode d'Eric Schmidt, qui était à l'époque le patron de Google, qui a été aussi important en 2012 pour la réélection d'Obama que l'année dernière Elon Musk. Sauf que la différence, c'est qu'on ne le voyait pas. Il était dans la salle des machines, il construisait ce qu'ils ont appelé l'opération Narval, donc une banque de données électorale tout à fait impressionnante, stratégique pour la réélection d'Obama en ce moment, mais on ne le voyait pas. Il prétendait être au service, disons, d'une cause politique. En plus, c'était le gentil Obama, donc tout le monde était plutôt content. Sauf que tout ce processus-là a permis à ces élites de la tech de devenir de plus en plus puissantes. Et aujourd'hui, on voit bien, par contre, et c'est là que Trump est une forme de révélation, on voit bien qu'il y a un vrai dessein politique derrière. Et ce n'est pas par hasard qu'Elon Musk et que tous les autres personnages de la tech aujourd'hui appuient non seulement Trump, mais Milei en Argentine, Bukele au Salvador, l'AFD en Allemagne. C'est parce que les extrêmes leur ressemblent beaucoup plus en réalité. Ils n'ont pas beaucoup grand-chose à voir, ces conquistadors de la tech, avec les gentils technocrates de centre-droit ou de centre-gauche qui ont gouverné nos sociétés au cours des dernières
décennies. Oui, ils n'ont rien à voir, dites-vous, même avec les technocrates de Davos.
Ils n'ont rien à voir avec l'ancien bloc de pouvoir. Les vieilles élites entrepreneuriales, économiques, même financières, s'accordaient très bien avec les élites de Davos, avec, disons, les technocrates de droite et de gauche. Là, c'est autre chose. Là, on est dans la disruption. Là, on est face à des gens qui pensent que pour avancer, il faut tout casser et rebâtir à zéro. Et qui ne veulent surtout pas être assujettis à des règles ou à des lois. Et donc, la convergence avec les extrêmes de la politique, qui sont dans la même dynamique et dans la même logique, est naturelle. Au-delà des préférences des uns et des autres.
Mais vous dites aussi quand même que cette réélection d'Obama, c'est peut-être le premier épisode, donc il s'agit d'Obama, les anciennes élites, de la confiscation par la technique de la démocratie. C'est le rôle que vous attribuez à ce Eric Schmidt, qui était un grand patron de la tech, de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, c'est-à-dire, on a l'impression que tous les bords politiques sont impliqués dans cette grande émergence, dans ce grand surgissement des seigneurs de la tech.
Vous savez, vous le connaissez bien évidemment, il y a de grands sociologues de la politique italiens du début du XXe siècle, et notamment Vilfredo Pareto, qui parlait de la circulation des élites. C'est-à-dire, il y a de temps en temps dans l'histoire une élite dominante qui est de plus en plus faible, affaiblie, incapable d'exercer le pouvoir et qui est remplacée par une autre élite et de nature, de composition éventuellement tout à fait différente. Et là, je pense que nous sommes face à un phénomène de ce type. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est simplement toute la classe politique traditionnelle de nos démocraties qui n'a pas compris ce qui se passait, qui a été dans une position de soumission, au fond, surtout au départ culturel et intellectuel face à l'arrivée des conquistadors de la tech, eh bien, elle a permis que ce pouvoir lui échappe complètement. Elle a accepté le discours qui consistait à dire « vous n'y comprenez rien, donc il ne faut surtout pas que vous vous occupiez de réseaux sociaux, de plateformes, d'Internet, aujourd'hui d'intelligence artificielle, parce que vous allez tout casser, vous n'y comprenez rien, ça n'a rien à voir avec vous. Contenez-vous de faire vos petites affaires. » Sauf que notre vie, notre, évidemment, débat démocratique, mais ça va bien au-delà de ça, est progressivement en train de basculer dans la sphère du numérique. Et là, c'est la jungle. Moi, c'est ce que j'appelle la Somalie numérique.
La Somalie digitale.
La Somalie digitale, c'est-à-dire une sorte d'État en faillite, sans aucune règle, où les seules règles sont faites par les seigneurs de la guerre, qui sont donc surtout les patrons de la tech, qui imposent leur logique de fonctionnement à leur territoire.
Somalie digitale, dites-vous, mais qui nous dirige vers quelque chose que certains considèrent comme un immense progrès, c'est-à-dire, et vous y réfléchissez beaucoup, Giuliano De Empoli, effectivement, l'intelligence artificielle. C'est peut-être l'ultime étape de cette numérisation du monde qui est en effet si inquiétante. Vous dites plus qu'artificielle, l'IA est une forme d'intelligence autoritaire qui contrôle les données et se transforme en pouvoir. Alors, jusqu'où va l'intelligence artificielle? Peut-on lui résister? Est-ce encore envisageable? Vous ajoutez que cette intelligence ne va pas que renforcer l'intelligence humaine, elle va aussi renforcer notre stupidité. Alors,
ça, on
que se passe-t-il et que peut-on faire?
Je pense qu'on l'a déjà vu, parce qu'on a déjà fait, on fait l'expérience d'une forme très primitive d'intelligence artificielle déjà depuis pas mal d'années, à travers justement les téléphones que nous avons dans nos poches, les réseaux sociaux et tout ça. Et on a bien vu qu'ils ont augmenté notre intelligence d'un certain point de vue. Ils ont rendu possible pour vous et moi et beaucoup d'autres de trouver des informations. Et voilà, d'avoir accès à des services qui facilitent et enrichissent notre vie. Mais en même temps, ces technologies-là ont aussi augmenté la stupidité individuelle et collective de nos sociétés. Je ne pense pas avoir besoin de le démontrer ici. Et donc, dans le cas de l'intelligence artificielle telle qu'elle se présente par rapport aux prochaines années, je pense que c'est important de ne pas être dans un discours ludite.
Ce serait ludite, ridicule. C'était ces artisans anglais du début du XIXe siècle, en effet, qui détruisaient les machines textiles parce qu'elles allaient les remplacer.
Oui.
Donc, on ne peut pas être ludite.
Alors, je pense qu'on
alors
peut
que
pas.
Pourtant, l'intelligence artificielle risque bien de nous remplacer.
Tout à fait. Mais c'est là que la question, je pense, doit être posée en termes de gouvernance. Ce n'est pas une question de technologie. Les technologies, la même technologie produit des effets et des impacts différents selon le contexte culturel, économique, de régulation sur lequel elle produit son impact. Donc, d'ailleurs, au XVIe siècle, l'imprimerie n'a pas le même effet en Chine, dans la Chine des mandarins, en Europe ou dans la Méditerranée. Donc, la question qui se pose est, à mon avis, une question de gouvernance. Vous citiez avant l'ancien conseiller pour la sécurité nationale de Trump, John Bolton. Celui de Biden, ce sont des gens très très bien renseignés, les plus renseignés à la Maison Blanche. Celui de Biden, Jake Sullivan, quand il a quitté il y a quelques mois la Maison Blanche, a fait un drôle d'entretien avec Politico en leur disant « Aux États-Unis, il y a aujourd'hui 4 ou 5 projets scientifiques qui sont des projets Manhattan, qui ont le potentiel d'affecter le développement de l'humanité. »
Comme la bombe atomique.
Comme la bombe atomique du projet Manhattan, sauf que, contrairement au projet Manhattan, il n'y a aucun contrôle public, aucune surveillance. Ils sont aux mains d'entreprises privées et on voit un peu les personnages qui conduisent ces entreprises, dont Musk est probablement un des plus gentils et un des plus humains, ce qui est tout dire, je pense. Et ces projets Manhattan, donc, ils se développent sans aucun contrôle. Et c'est là que le thème de la gouvernance, je pense, est quand même assez problématique et assez central.
Oui, mais Manhattan, c'était la construction d'une arme nucléaire qui allait tout détruire. Là, ces projets ont quelque chose de destructeur, mais en même temps d'attractif, parce que, vous l'avez dit pour le portable, ça rend de plus en plus de services. Et un autre épisode tout à fait fascinant que vous racontez dans votre livre, c'est celui des lunettes connectées, donc des lunettes intelligentes et lunettes de réalité augmentée, que portait d'ailleurs un conférencier, conquistador de la tech. C'est une conférence à laquelle vous avez assisté. Alors racontez-nous un peu cette histoire, et ça va être quoi, les lunettes augmentées? On a déjà les téléphones augmentés, alors les lunettes augmentées, ça va être quoi?
Je pense que ça va être un stade intéressant de cette évolution, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons déjà décidé collectivement de confier notre relation au monde, notre relation aux autres, même les plus intimes, à une interface qui est pour l'instant notre téléphone. Avec les lunettes connectées, cette interface va évoluer et elle va donc très littéralement se poser sur nos yeux en rendant possible à chacun d'entre nous évidemment de bénéficier de tous les services que les téléphones nous offrent déjà, mais en plus de choisir notre réalité de façon de plus en plus personnelle. Que font au fond déjà aujourd'hui les téléphones portables et Internet? Ils filtrent notre réalité, nous pensons que c'est une fenêtre sur le monde, mais en réalité c'est une fenêtre qui est filtrée sur nos préférences, nos goûts, nos envies, nos préjugés, etc. Donc c'est plutôt un miroir de foire qu'une fenêtre. Quand Éric Zemmour a ce lapsus dans la dernière campagne électorale où il dit « je ne vois que ce que je crois », donc il dit le contraire de ce qu'il aurait voulu dire,
il
dit la vérité, c'est-à-dire c'est le principe même de ces interfaces-là. On ne voit plus que ce en quoi on croit déjà. Les lunettes vont rendre ce principe littéral. On ne verra plus que ce qu'on croit et ce qu'on a choisi de voir.
On se promettra dans la rue, qu'est-ce qui va se passer ?
Autour de la même table, on assistera au même spectacle, au même débat politique, et on verra des effets différents parce qu'on aura présélectionné des effets, des commentaires. Mais là aussi, ce n'est qu'un stade intermédiaire. Parce que cette interface-là, après les lunettes, elle va entrer en nous. Et ce qu'elle aura, c'est qu'elle sera donc de plus en plus intime. On aura un jour probablement plus besoin de lunettes. Ce sera directement des implants cérébraux ou quelque chose de ce type. Et en plus, non seulement elles seront de plus en plus intimes, mais elles seront de plus en plus intelligentes, de plus en plus capables de nous satisfaire. Sauf que c'est cette satisfaction-là, elle porte aussi en soi un potentiel d'asservissement qui est considérable.
Attendez, mais simplement, aujourd'hui, imaginons que je me promène dans la rue avec ces lunettes augmentées. C'est une hypothèse d'école, ça n'arrivera pas, je ne me promène même pas avec un portable. Mais
on verra,
admettons, qu'est-ce qui se passera? Je suis dans ma rue et je suis sur un boulevard, qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, alors par exemple, l'exemple que faisait le conférencier de ce déjeuner auquel j'ai participé, il disait, ce sera merveilleux parce que vous serez dans un pays dont vous ne parlez pas la langue et vous entendez quelque chose et vous aurez immédiatement à travers vos lunettes la traduction instantanée de ce qui se dit. Vous regardez une pancarte dans une langue que vous ne connaissez pas et vous aurez la traduction. Après, vous voulez traverser la rue et vous êtes distrait, vous n'avez pas vu qu'il y a une voiture qui arrive et votre lunette va vous mettre en garde et donc vous n'allez pas être renversé par la voiture. Après, vous allez désirer quelque chose, avoir une explication de plus par rapport à ce que vous voyez ou vous allez vouloir aller déjeuner ou dîner et votre lunette va vous dire où aller et quelle route emprunter. Donc, c'est simplement une évolution de ce que nous avons déjà avec nos téléphones et ce sera très confortable et en plus très sécurisant sous beaucoup d'aspects, mais ça multipliera encore le potentiel. D'abord, ça nous séparera encore du plus en réalité parfaitement parallèle et qui ne se parle pas. Et puis, ça multipliera encore le potentiel de manipulation parce que tout ça, je tiens beaucoup à ce concept-là. Tout ça, il faut bien voir dans le numérique. C'est un philosophe peu connu qui a développé ce raisonnement-là qui s'appelle Michel ou Marc Hunyadi. Et lui, il dit, quand vous êtes dans le monde physique, la fonction apparente et la vraie fonction d'un instrument, c'est la même chose. un marteau, il donne l'apparence de servir à enfoncer des clous, et il sert à enfoncer des clous. Dans le numérique, c'est pas comme ça. Google, les réseaux sociaux, ce que vous voulez, leur fonction apparente, c'est de vous permettre de faire des recherches, de vous connecter avec vos proches, mais leur vraie fonction, c'est d'accumuler des données sur vous.
Ah oui, d'accord.
Voilà. La seule vraie fonction qu'elles ont. La fonction apparente, elle est simplement conçue pour essayer de vous attirer. Mais c'est la fonction que vous ressentez, vous, mais ce n'est pas la vraie fonction de l'outil. Et donc, imaginez ce mécanisme-là transposé de façon de plus en plus intime et totale à l'intérieur de nos vies, les lunettes, les implants et tout ça. Ça donne quand même un potentiel de contrôle et de manipulation qui est très élevé.
Contrôle et manipulation, mais en même temps, on peut s'interroger aussi sur la réelle utilité de ces nouvelles machines, parce que elles nous déchargent du soin de chercher, de penser, de réfléchir. Voilà pourquoi, en effet, elles risquent de nous rendre de plus en plus bêtes. Et pour en revenir aux ludites, oui, on ne détruira pas les téléphones portables et on ne reviendra pas sur les acquis de ChatGPT. C'est possible, mais plutôt que de croire qu'on peut maîtriser intelligemment l'usage de ces techniques, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aux moyens de les mettre à distance, de se déconnecter, de résister à leur toute puissance, soustraire des lieux et des moments à l'empire des écrans, ou si j'ose dire, multiplier les conclaves. Dans les conclaves, il n'y a pas de téléphone portable. Est-ce que ce n'est pas quand même la solution pour échapper d'une manière ou d'une autre au seigneur de la tech, parce que s'il s'empare définitivement de l'école, il n'y a plus d'école. Giuliano D'Empoli.
Tout à fait. D'ailleurs, je trouve ce qui m'inquiète beaucoup dans l'école aujourd'hui, je le vois à travers ma fille, c'est que voilà, moi, j'ai essayé de régler un peu son usage des tablettes et de tout ça, et après c'est l'école elle-même qui la force, simplement aussi pour voir quelles sont ses notes, à être constamment connectée, ça crée une anxiété. Mais d'ailleurs, c'est peut-être par là que passera une forme de prise de conscience, parce que je pense que nous voyons tous dans nos familles quel est l'effet produit par ces instruments sur les plus jeunes. Et ça commence à être une conscience qui se diffuse. Et une fois qu'on a établi le principe que, voilà, que c'est en partie mauvais, ça offre des opportunités aussi. Mais l'excès d'usage est mauvais pour le développement cognitif des jeunes. Eh bien, une fois qu'on a établi ça, après, le passage pour dire en général, c'est mauvais pour le développement cognitif, il n'est pas trop loin. Mais ce que vous dites, moi, je suis d'accord avec vous. Ménager, avant tout se détacher un peu, se soustraire à cette emprise-là, mais ça ne peut pas être un processus individuel, parce que, enfin, on peut essayer, on essaye tous, je pense, de le faire, mais ces machines-là sont véritablement, vous savez, les meilleurs chercheurs de psychologie cognitive aujourd'hui, ils travaillent dans des boîtes et dans des plateformes de la tech, hein. C'est des laboratoires de recherche extraordinaires, bien supérieurs à ceux de n'importe quelle université, parce qu'ils travaillent sur des données réelles, en quantité énorme, ils payent très très bien, et ils ne travaillent que sur le renforcement des processus, justement, d'addiction. Donc c'est des machines énormes, et face à ça, il faut un contrepoids politique. Ça ne peut pas rester simplement une initiative qu'on prendrait les uns et les autres pour essayer de faire face à cette déferlante.
Oui, mais ce contrepoids, il est très difficile de le mettre en place. Je vais citer une dernière anecdote significative dans votre livre. Ça se passe dans la lointaine banlieue parisienne, à Lieusaint. Voilà, à Lieusaint, quelque chose de terrible est arrivé à cause du numérique. Alors justement, racontez-nous, que s'est-il passé et quelles leçons peut-on en tirer? Julien
Donc,
Audin.
Lieu Saint, une petite commune paisible de la ceinture parisienne, des petits pavillons, un cadre de vie très agréable. Et d'un jour à l'autre, les ruelles de Lieu Saint sont envahies par une marée de poids lourds, d'autocars, de grosses bagnoles qui déboulent dans la ville parce qu'elles quittent l'autoroute pour passer par le village. Et donc on comprend très vite que c'est Waze, donc l'application qui permet de contourner les embouteillages, qui guide ses utilisateurs, qui sont, je crois, en France, plus que 10 millions, hein, c'est un chiffre considérable, et qui les guide pour éviter les embouteillages dans Lieu Saint. Et c'est le cas de beaucoup, d'ailleurs, d'autres villes, et même de petites rues paisibles à Paris et dans nos villes, qui soudainement se voient traversées par un flot de véhicules. Et ce n'est évidemment pas l'effet le plus important du numérique, mais je pense qu'il pose bien la question de la souveraineté. Moi, je suis allé voir le maire de Lieu Saint, qui a été confronté à ce problème et qui donc a commencé à essayer de mettre des feux rouges pour ralentir le flux. Sauf que ça dérange les habitants aussi, donc il faut faire attention à pénaliser les usagers de Waze sans trop embêter les habitants et tout. Mais surtout, la question qui est posée, c'est qui est souverain ? Qui, pour régler la circulation d'une commune, est-ce que c'est le maire qui est élu et qui répond à ses électeurs de ses actions, ou est-ce que c'est une plateforme qui n'a même pas un seul employé en France, et d'ailleurs le maire a essayé bien évidemment de les appeler, mais il n'y a pas de numéro de téléphone, et il n'y a personne à appeler parce que c'est des millions d'usagers, mais personne n'est responsable. Alors, il a fait beaucoup de bruit sur les médias, qui malgré tout ont encore leur fonction quand même. Et donc, il y a un petit contingent de gens qui sont débarqués d'Amsterdam pour le voir, mais ça n'a rien changé.
Ça n'a rien changé, donc il a échoué en réalité.
Malheureusement, moi je suis allé le voir en pensant qu'il avait réussi avec ses feux rouges, mais il m'a expliqué que la bataille n'est pas gagnée.
La bataille n'est pas gagnée, donc voilà. Des plateformes effectivement insaisissables.
Oui, après on peut se dire qu'on ne peut rien faire, mais ce n'est pas vrai, parce que dans le cas de Waze, il y a eu une loi française qui a été faite pour empêcher à ces plateformes-là de conseiller un itinéraire par des ruelles si le gain de temps n'était pas supérieur à un certain... Donc ça a déjà limité un peu la chose, et on pourrait par exemple leur empêcher de conseiller des itinéraires en face de crèches, ou d'hôpitaux, ou de maisons de retraite, des endroits qui doivent rester paisibles. Ce n'est pas impossible d'imposer des règles. Il faut décider de le faire.
Mais espérons que sa décision sera prise. Alors maintenant, pour conclure, je voudrais citer une phrase de Rilke, que vous m'avez fait découvrir dans un entretien au Figaro, que je trouve magnifique et j'aimerais que vous la commentiez brièvement, Julien de Empoli. Voici la phrase. Je vis en mauvaise intelligence avec les appareils photo, parce que je trouve qu'ils sont trop arrogants et ils n'ont pas l'humilité que les machines devraient toujours avoir.
C'est une phrase magnifique d'une lettre de Rilke. D'ailleurs, ces lettres sont toutes parsemées de trésors de ce type. Mais c'est aussi un vrai programme politique, à mon avis. Enseigner, réenseigner aux machines l'humilité qu'elles n'ont plus. Et pour le faire, il ne faut pas être ludite, justement. Il faut être plus avancé que la machine. Donc, je pense que tous ces gens qui nous annoncent un futur inévitable de soumission à la machine, ils sont presque dans une attente religieuse de quelque chose qui va les dominer. Alors que la chose à faire, je pense, c'est d'être tellement bon qu'on va remettre les machines à leur place. C'est un vaste combat, mais ce n'est peut-être pas impossible.
C'est peut-être pas impossible, mais cette soumission, malheureusement, elle se présente comme une tentation. C'est-à-dire, c'est tous les bénéfices que ces machines nous apportent. C'est Waze, par exemple, ce sont les téléphones portables, une petite échelle, ce sont les GPS. C'est formidable, le GPS. Mais quand vous prenez le taxi dans n'importe quelle ville de France, vous faites très facilement la différence entre le chauffeur qui n'utilise pas son GPS et le chauffeur qui l'utilise. Et le chauffeur qui n'utilise pas disons, son intelligence est à vif. Il est beaucoup plus intéressant, même quand on a une conversation avec lui, que l'autre. L'autre qui se repose sur le GPS. Mais voilà, comment empêcher une soumission qui se présente comme une tentation. Pour finir, Bruno Bampoli.
Il s'agit, cette soumission-là, on la paye quand même à un prix qui est très élevé. Parce qu'on bénéficie du confort, mais comme vous le dites, on prépare peut-être un futur où on ne sera plus libre, qui est quand même le grand enjeu aujourd'hui. Et donc, moi je pense qu'il y a moyen de bénéficier de la technologie sans sacrifier les valeurs et les principes de fonctionnement de nos et même de mettre peut-être ces technologies au service de nos démocraties et de nos valeurs.
Dieu vous entende, Gennaro Empoli. En tout cas, je voudrais rappeler le titre de votre beau livre, L'heure des prédateurs, qui est publié aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Loïc Duros. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'héritage du pape François. Mes invités seront Jean-Marie Guénois et Jean-Louis Schlegel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.